Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, les élections locales en Turquie.
C'est ça, des élections locales hier qui devaient mesurer la popularité de l'AKP et du président Erdogan au pouvoir depuis 2002. Popularité ou désaveu, on va voir ça puisque l'AKP est en difficulté. La capitale Ankara lui échappe, Istanbul on ne sait pas encore. En tout cas, ces dernières élections avant 2023 pourraient bien sonner comme un coup de semonce. Eh bien, on voit ça avec vous Dorothée Schmidt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes directrice du programme Moyen-Orient et Turquie contemporaine à l'IFRI. Je rappelle juste ce chiffre provisoire pour l'instant, 44,2% au niveau national. Ça, c'est la progression de 2 points pour l'AKP par rapport à 2014. Mais c'est vrai que les deux villes principales pourraient échapper. Erdogan, dans son discours hier, ne triomphait pas. Il parlait de remédier aux faiblesses. Qu'est-ce que vous retenez principalement et d'abord, c'est que c'est ni un triomphe, ni finalement la claque peut être annoncée pour le président Erdogan non plus.
Écoutez, si Istanbul est perdu, puisque là on est quand même dans un moment où les deux candidats, Istanbul, celui de l'AKP et celui du Parti républicain du peuple, donc des Kémalistes, sont vraiment dans un mouchoir de poche, puisqu'on parle d'une différence de 4000 voix sur une municipalité qui fait 15 à 16 millions d'habitants. Si Istanbul était perdu, ce serait vraiment un revers très très grave pour l'AKP. Autrement, ce que je retiens, c'est l'importance du jeu des alliances, avec donc cette alliance entre l'AKP et les nationalistes qui effectivement permet à l'AKP de résister au point de vue numérique en termes de nombre de villes et de votes globaux, mais aussi un début de structuration de l'opposition avec l'alliance entre les Kémalistes et le İyi Parti, ce bon parti qui est un parti nouvellement apparu sur la scène politique turque, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie parce que malgré tout c'est une forme d'alternance qui pourrait se dessiner.
Oui, parce que c'était une des caractéristiques de ces élections local que de confronter deux coalitions ou alliances, alliance populaire AKP plus MHP nationaliste et puis l'alliance nationale du parti II puis CHP et le HDP kurde qui s'était retiré d'un certain nombre de villes également. Encore une fois, sur ces résultats, vous l'avez dit, là, quelques milliers de voix pour Istanbul, ça va se jouer à rien effectivement sur un nombre d'électeurs très important, près de 58 millions. Comment ça se fait qu'on soit si proche, à votre avis, dans certaines une ville, finalement, quelques milliers.
Alors, on ne peut pas nier que la situation économique a beaucoup joué sur ces élections, mais de façon plus générale, il y a quand même une usure du pouvoir, et c'est là que ce qui est intéressant dans ces élections, c'est de voir que malgré tout, la Turquie reste un pays plus démocratique que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, en tout cas, on est dans une forme de démocratie libérale, mais avec illibérale, hein, mais avec des ressources encore aujourd'hui populaires qui pourraient tourner peut-être en partie contre l'AKP. La situation économique a joué, je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui l'alliance entre le GP et le İyi Parti affirme qu'elle a gagné avec énormément de municipalités de l'ouest de la Turquie, qui sont les municipalités où le capitalisme turc est implanté depuis le plus longtemps, qu'elle a gagné plus de 60% du PNB de la Turquie. Et évidemment, Istanbul, du point de vue de la production économique, c'est très important puisque c'est 30% du PNB de la Turquie. Et ce que je retiendrai aussi, c'est que la contestation aujourd'hui, elle change de camp puisque l'AKP a dit qu'il allait déposer un recours pour contester les résultats à Ankara. Donc là, on est à front renversé par rapport à la dernière élection où c'était l'opposition qui avait déposé un recours parce qu'elle estimait que la victoire de l'AKP était frauduleuse.
Oui, bon, à Ankara où Mansour Yavaz, donc le candidat du CHP, serait devant donc Mehmet Öcalan, qui est un ancien ministre. De la même manière, c'était un ancien premier ministre, hein, Ben Ali Yildirim, qui se présentait contre le candidat CHP à Istanbul. Donc là, la situation n'est pas réglée, mais on a quand même deux figures principales de l'AKP qui avaient été envoyées en renfort et qui finalement ne séduisent pas tant que ça. C'est ça aussi, ces figures.
Voilà, alors ce qui est très important aussi du point de vue de fonctionnement interne de l'AKP, c'est qu'effectivement Erdogan avait installé comme candidat des hommes de confiance, des proches. Bin Ali Yildirim, qui est une personnalité, qui est un ancien premier ministre de Tayyip Erdogan, qui est considéré comme une personnalité qui était aussi capable d'équilibrer d'une certaine façon Tayyip Erdogan et qui donc était le meilleur candidat possible pour Istanbul, et puis s'est fait dépasser dans les sondages au moment, au fur et à mesure que l'élection se rapprochait. Mais dans la campagne électorale, où l'AKP a vraiment occupé toute la place, hein, puisque plus de 90% des médias étaient dominés par l'AKP, Erdogan a fait lui-même un nombre de meetings absolument impressionnant, avec jusqu'à 8 meetings par jour dans les derniers jours. Ouais. En réalité, au sein de l'AKP, on a vu qu'il y avait quand même des tiraillements. Il y a aussi des éditorialistes dans les journaux qui se sont montrés légèrement critiques vis-à-vis de la gouvernance de Tayyip Erdogan. Donc, on se demande aujourd'hui si ce début d'affaiblissement, hein, relatif de l'AKP pourrait amener un peu plus de discussion au sein du parti, voire éventuellement un début de contestation au sein du parti, au sein même du parti.
Ouais, on va redire un mot de Erdogan, mais pour rester sur la carte du scrutin également, donc dans l'Est, il y a eu une victoire du HDP, je crois que pour l'instant on en est à 8 provinces, mais également une bonne résistance, on pourrait dire, de l'AKP, avec ces mots du président Erdogan. Je voudrais remercier nos citoyens, en particulier nos frères kurdes, pour s'être approprié la question de la survie, puisqu'il avait présenté cette campagne comme un référendum pour la survie du pays, qui nous est sensible. Est-ce que l'AKP a tant percé que ça dans l'Est, finalement ?
Non, mais le HDP, en revanche, n'a pas fait des très bons résultats, et c'est dû évidemment à la chasse aux sorcières constante à laquelle le parti doit résister de la part de l'AKP, avec des militants arrêtés constamment, avec, vous le savez, des dizaines de maires qui ont été destitués de leur fonction aussi dans l'Est, et qui ont été substitués par des affidés, ouais, de l'AKP automatiquement. Et donc Erdogan a déjà annoncé que de toute façon il pourrait contrôler ses municipalités à l'avenir. Mais enfin, le HDP a fait un assez mauvais score, et c'est d'autant plus impressionnant que le parti avait effectivement choisi de se retirer des grandes villes pour soutenir, pour appeler vraiment à voter pour l'Alliance nationale, donc du JP et du parti.
Oui, et puis vous l'avez dit, avec 94 maires HDP destitués entre 2014-2019. Vous avez parlé de la présence, voire surprésence, d'Erdogan dans cette campagne, hein, 102 meetings en 50 jours, 14 discours sur les deux derniers jours. Est-ce qu'il a eu tort de s'engager autant dans cette campagne, de l'erdoganiser? Est-ce qu'aujourd'hui ça va lui coûter, finalement, pour les prochaines années?
Toutes les campagnes sont erdoganisées désormais en Turquie. De toute façon, on a déjà eu des polémiques dans le passé, car le président s'impliquait dans les campagnes des élections législatives, des élections locales. Le pouvoir est devenu tellement personnel en Turquie que Erdogan ne peut pas faire autrement que de s'impliquer.
Parce qu'il y avait une logique pyramidale, disons, dans des élections législatives, voire présidentielles, mais là, quand même...
Non, mais là, c'est le régime qui a changé. Je vous rappelle qu'on a quand même eu ce référendum constitutionnel l'année dernière qui a permis de vraiment personnaliser complètement le système, avec un AKP, un président de la République qui est à la fois le patron du parti dominant, qui n'a plus de Premier ministre. Donc vraiment, Erdogan est tout puissant, et c'est l'unique visible pratiquement dans le paysage. Donc il pouvait pas ne pas faire campagne. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que ses supporters continuent de dire qu'ils voteront pour lui à tout prix. Et finalement, on a toujours à peu près cette espèce de répartition avec 30 à 40% des Turcs qui sont indéfectiblement derrière Erdogan, quelles que soient les circonstances.
Oui, c'est ça, une base qui est quasiment acquise. Qu'est-ce que ça implique pour la gouvernance jusqu'en 2023, donc dans ce régime, vous l'avez dit, nouvellement très présidentialisé? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose, disons, d'avoir perdu les deux villes principales pour la gouvernance?
Non, d'abord, peut-être qu'on peut dire que du point de vue historique, ce qui est important, c'est que l'AKP a toujours un ancrage local qui était très important, et que c'est là-dessus que c'est sur la gestion des municipalités qu'il a bâti ses victoires électorales. Erdogan lui-même a bâti sa carrière politique à partir de son mandat de maire d'Istanbul dans les années 90. Donc ça, c'est très important quand même, pas simplement du point de vue symbolique, mais du point de vue de l'ancrage du pouvoir à moyen terme. Et puis, on peut imaginer que c'est pas ce qui va se passer sur Istanbul, hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut suivre dans les jours à venir. On peut quand même imaginer qu'on peut avoir aujourd'hui des foyers d'opposition qui soient un peu plus solides que dans le passé en Turquie.
Oui, avec des résultats qui ne sont toujours pas rendus pour Istanbul. Dernière chose, là vous disiez le bilan économique, le coût de la vie, c'est ça qui a coûté à l'AKP. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années, 16 ans qu'ils sont au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une usure, tout simplement ?
Oui, tout à fait, c'est par là qu'il faut commencer. Il y a une usure du pouvoir, mais enfin, quand il n'y a absolument aucune autre offre politique à disposition, l'usure du pouvoir, elle n'a pas vraiment de portée. Voyez, le paysage politique en Russie, il est très largement dominé par Poutine, parce qu'il n'y a aussi pas d'autre offre politique. Donc là, ce qui est quand même important, c'est qu'on perçoit une espèce de ressort de l'opposition, malgré toutes les manœuvres extrêmement clientélistes de l'AKP, qui a offert des largesses monétaires à tous ces électeurs dans les dernières semaines pour essayer de s'assurer des votes.
Bon, ben à suivre en tout cas dans les prochaines heures les résultats à Istanbul. Et merci pour vos explications ce matin, Dorothée Schmidt, directrice du programme Moyen-Orient et Turquie contemporaine à l'IFRI.